L'Ancien Testament est écrit à plus de 99% en hébreu. Et comme il se compose uniquement de consonnes, selon les voyelles qu'on attribue aux consonnes, le sens est différent. Bien que la plupart du temps, ça ne change pas grand-chose. Dans le chapitre 6 du livre de Michée, selon les voyelles adaptées, Dieu dit « Ton nom verra le succès. Celui qui est sage craindra ton nom. La sagesse, c'est de le craindre. » Et l'ancienne version grecque a « Il sauve ceux qui le craignent. » Voilà. Choisissez. D'accord, c'est différent, mais ça revient à peu près au même. Les versions françaises, anglaises, allemandes adoptent l'une ou l'autre de ces possibilités. Dans ces situations qui sont relativement fréquentes, il est préférable d'employer le texte hébreu traditionnel, ce que je fais. Je continue de lire dans le chapitre 6 du livre de Michée. Après avoir exhorté le peuple de Dieu d'une voix douce et paternaliste, le prophète change soudainement de ton et dit « La voix de l'Éternel crie à la ville. Celui qui est sage verra ton nom. Écoutez, le bâton est celui qui l'a ordonné. » La ville est évidemment Jérusalem, car c'est là que Michée exerce son ministère et ce que désigne en général le mot « la ville ». Celui qui est sage est littéralement la sagesse. Le mot utilisé est très rare et signifie, à proprement parler, solidité, substance ou réalité. Ce terme abstrait désigne l'attitude de l'homme sérieux et prudent. Confronté à la loi de Dieu, il ne rue pas dans les brancards, mais s'efforce d'y conformer sa conduite. Quelle que soit la manière dont les Israélites écoutent le message de Michée, ceux qui sont sages y sont réceptifs, mettent à profit ce qu'ils ont entendu et s'en trouvent bénis. D'autres passages des Écritures expriment à peu près la même pensée. Dans le livre des Proverbes, agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre. Obéir au commandement, c'est veiller sur sa propre vie. Celui qui est sage verra ton nom, dit le texte hébreu traditionnel. Le nom de Dieu révèle qui il est, son être intime. Celui qui a vraiment la tête sur les épaules considérera qui est l'Éternel et aura envers lui une crainte révérentielle qui s'exprimera en attitude et en acte. Dans le livre des Proverbes, on lit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » Michée dit « Écoutez le bâton, qui est une forme électique qui signifie. Écoutez l'annonce de la venue du bâton. Ce gournin est un peuple étranger dont l'invasion accomplira les jugements de Dieu contre Israël. » Dans le livre d'Ésaïe, le bâton est désigné avec précision. Je lis le passage. « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Par conséquent, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant de Sion, ne crains pas l'Assyrie quand, avec le bâton, il viendra te frapper et lorsqu'il brandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. » Cependant, dans la prophétie de Michée, il s'agit des Babyloniens. Je continue le texte. Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis, les mesures réduites, objet de ma malédiction? Les commerçants indélicats utilisent deux poids, deux mesures, selon qu'ils achètent ou vendent. S'ils achètent en litres de blé, ils se servent d'un conteneur qui est un peu plus grand que la mesure supposée. Et quand ils revendent le blé, ils en utilisent un qui est un peu plus petit. Les livres du Lévitique, du Deutéronome, le livre des Proverbes et le prophète Amos s'élèvent contre cette pratique qui est alors très répandue. Je lis ces passages. Vous ne mettrez pas de malhonnêteté en frondant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure de capacité juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids différents, l'un plus lourd, l'autre plus léger. Tu n'auras pas dans ta maison deux mesures de capacité, l'une plus grande et l'autre plus petite. Tu auras des poids exacts et justes, des mesures exactes et justes, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car l'Éternel ton Dieu a en abomination ceux qui commettent de telles fautes. Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix, en truquant les balances, et nous achèterons le pauvre pour de l'argent, et l'indigent pour un morceau de pain. Nous vendrons même jusqu'aux déchets du blé. Je continue le texte. Serais-je sans reproche avec des balances fausses et avec des poids trompeurs dans le sac? C'est le prophète qui parle au nom de la mauvaise conscience des commerçants corrompus. Il se sent coupable puisqu'il pratique journellement les actes frauduleux que le prophète vient de mentionner. De toute évidence, les classes sociales supérieures ne sont ni droites en affaires ni miséricordieuses à l'égard de leurs semblables. Je continue. Le riche de la ville a recours à la violence. Ses habitants profèrent des mensonges, leur langue ne fait que tromper. Non contents de tromper leur prochain, les riches de Jérusalem commettent aussi des actes violents. Et pour clore le tout, les habitants de la ville s'abonnent aux mensonges sans retenue. La fourberie, suivie de violence, est un engrenage diabolique, auquel les victimes n'échappent pas. Dans le psaume 27, le roi David crie à Dieu en disant « Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. » C'est aussi dans ce genre de traquenard, mis en place par les chefs religieux juifs, qu'est tombé Jésus. Dans l'évangile selon Matthieu, on lit « Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchait un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais, bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclarèrent. Cet homme a dit « Je peux démolir le temple de Dieu et je le rebâtirai en 3 jours. » Alors, le grand prêtre reprit en disant « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de contestation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent « Il est passible de mort. » Alors, ils crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant « Eh Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » Tout comme d'antan, aujourd'hui le mensonge est répandu dans tous les domaines de la vie. Les politiciens sont spécialistes de la langue de bois. Et il n'y a pas d'exception. Car sans mentir, il n'est guère possible de se faire élire. Les hommes d'affaires dansent autour de la vérité en récitant un bréviaire incompréhensible afin de tromper ses consommateurs. Et les vendeurs parlent comme un disque rayé. Quant à la publicité, son objectif est de vendre peu importe comment, que ce soit des demi-vérités ou carrément un gros bobard. Qui ne ment pas quand il se sent coincé? C'est naturel, normal même. Comment en est-on venu là? L'explication est très simple. Il suffit de se rappeler que c'est Satan, le prince de ce monde, qui mène le bal, et que, dans son évangile, Jean rapporte que Jésus a dit qu'il est le père du mensonge. Je continue le texte. À mon tour, l'Éternel dit « J'ai fait en sorte que vous frappez jusqu'à vous en rendre malade. J'ai fait en sorte de vous dévaster à cause de votre faute. Tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié, et le vide sera au-dedans de toi. Tu mettras des choses de côté, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu fouleras l'olive, mais tu ne toindras pas d'huile. Tu fouleras le mou, mais tu ne boiras pas le vin. » L'Éternel prédit le marasme de l'économie agricole, la pénurie qui en résulte et la famine suivie plus tard de l'invasion et le massacre par un ennemi. C'est la juste rétribution des fautes et surtout des violences exercées par les classes dirigeantes contre les petites gens. Ce scénario a d'abord eu lieu dans le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Le prophète Amos écrit « Puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Vos vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin. » Assez curieusement, dans sa menace, Michée ne dit pas « tu presseras, mais tu fouleras l'olive ». Normalement, les olives sont soit pressées, soit écrasées dans un moulin. Les fouler au pied n'est pas très efficace, mais pour les pauvres, c'est la seule façon d'obtenir un peu d'huile. L'huile d'olive est alors utilisée à toutes les sauces. Littéralement et autrement, elle sert d'onction dans certaines cérémonies, à oindre ses hôtes, à adoucir les plaies, frictionner les contusions, et à d'autres usages. Quand Michée dit de la part de l'Éternel, « J'ai fait en sorte de vous frapper, de vous dévaster », en hébreu, il emploie le temps du parfait qui sert à exprimer la certitude du jugement futur. Les Israélites ne pourront donc pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. Non seulement l'Éternel leur envoie prophète sur prophète, mais une grande partie de la loi est constituée de menaces en cas de désobéissance. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, on lit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous mes commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements, et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer, et votre terre comme du bronze. Vous puiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien, et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois des coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four, et lorsqu'elles se distribueront des rations pesées, il n'apaisera pas votre faim. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis des mauvaises actions. Toutes ces menaces effrayantes ne sont pas restées lettres mortes. Les prophètes et les livres historiques décrivent comment elles se sont accomplies. Tout d'abord, le royaume du Nord est conquis par les Assyriens. Puis, ensuite, 1,5 siècle plus tard, c'est autour de Juda et de Jérusalem qui sont détruits par les Babyloniens. Le prophète Jérémie écrit « Pendant le siège de la ville, il se prolongeait. Une grande famine y sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiche 5 pièces d'argent. » Je finis de lire le chapitre 6 du livre de Michée. On observe les ordonnances d'Omri et toute la manière de faire de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je ferai de toi un objet d'horreur et tes habitants un objet de raillerie, et vous porterez l'opprobre des peuples. Michée termine sa liste de menaces en rappelant leur cause. Il décrit la culpabilité de Juda sous forme poétique, de 3 manières différentes mais équivalentes, auxquelles il fait correspondre 3 châtiments qui concernent d'abord Jérusalem, puis sa population, et enfin toute la nation. Les Israélites suivent à la lettre les ordonnances d'Omri et toute la manière de faire de la biseau d'Akab. La corruption et le mensonge qui sont alors prévalents en Israël sont la conséquence logique de l'abandon par le peuple de la loi de l'Éternel. Ce rejet de Dieu fait suite à l'idolâtrie mise en place par le roi Jéroboam dès la création du royaume des 10 tribus. Cette idolâtrie s'est encore aggravée avec le temps pour atteindre, sous la dynastie d'Omri, le même niveau que les nations païennes. Omri règne sur le royaume des 10 tribus du Nord au début du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui fait construire la capitale Samarie. Au niveau moral et religieux, c'est un très mauvais roi, pire que les précédents. Dans le premier livre des rois, on a de lui et de son fils le témoignage suivant. Omri fit ce que l'Éternel considère comme mal, il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nébat. Il entraîna le peuple d'Israël dans le péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel leur Dieu par leur idolâtrie. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal, et fut pire que ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Étahal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Jézabel, prophétesse phénicienne, est dévouée corps et âme à l'idole Baal. Elle le s'entoure de plusieurs centaines de faux prophètes et fait assassiner les prophètes de l'Éternel. Durant le règne du couple infernal que constituent Akab et Jézabel, le culte de Baal devient religion d'État, la religion officielle du royaume des 10 tribus du Nord. Le règne est non seulement caractérisé par un paganisme de bas étage, mais également par le mépris du droit et de toute justice. Akab et Jézabel ont une fille, Athalie, qui devient l'épouse de Yoram, un roi de Juda qui imite leur beau-père, ce qui est une catastrophe pour le royaume de Juda. Les pratiques infâmes qui ont alors cours dans le royaume du Nord se propagent dans Juda, le royaume du Sud, d'où les reproches de Michée qui accuse les habitants de Jérusalem et surtout les classes dirigeantes de se rendre coupables des mêmes fautes que les Israélites sous le règne d'Omri et d'Akab. Dans la phrase, on observe les ordonnances d'Omri. Michée utilise une forme de verbe hébreu qui signifie « observer scrupuleusement ». Ce qui est une référence au culte de Baal et à la corruption dans les rapports sociaux. Il s'ensuit que Juda connaîtra le même sort que le royaume des 10 tribus, qui est conquis est détruit par les Assyriens. Juda subit une série de châtiments qui ont déjà été décrits et qui culmineront par l'exil de sa fin politique. Michée a écrit cet oracle au temps d'Ahaz, roi de Juda particulièrement idolâtre, soit au tout début du règne de son fils Ézéchias, avant que ce dernier n'entreprenne les grandes réformes religieuses qui abolissent l'idolâtrie en Juda. L'histoire enseigne que le dirigeant d'une nation donne l'exemple à leur peuple et que les croyances de ce dernier se reflètent dans ses valeurs et les relations sociales. Or, d'un côté de l'Atlantique, nous avons eu un président qui, pendant son mandat, s'est déculotté devant l'une de ses assistantes. Et en France, nous avons un président ou chef de parti qui ont plusieurs femmes ou bien qui passent de l'une à l'autre sans se sentir gêné le moins du monde. Il ne faut donc pas s'étonner que l'immoralité ait infiltré tous les niveaux de la société française.